Marcel Proust, La mort de Baldassare Sidvand, chapitre 5. Voilà un noble cœur qui se brise. Bonne nuit, aimable prince, et que les essaims d'anges bercent en chantant ton sommeil. Shakespeare, Hamlet. Cependant, une fièvre violente, accompagnée de délires, ne quittait plus le vicomte. On avait dressé son lit dans la vaste rotonde où Alexis l'avait vu le jour de ses 13 ans, l'avait vu si joyeuse encore, et d'où le malade pouvait regarder à la fois la mer, la jetée du port, et de l'autre côté les pâturages et les bois. De temps en temps, il se mettait à parler, mais ses paroles ne portaient plus la trace des pensées d'en haut, qui pendant les dernières semaines l'avaient purifié de leur visite. Dans des imprécations violentes contre une personne invisible qui le plaisantait, il répétait sans cesse qu'il était le premier musicien du siècle et le plus grand seigneur de l'univers. Puis, soudain calmé, il disait à son cocher de le mener dans un bouge, de faire seller les chevaux pour la chasse. Il demandait du papier à lettres pour convier à dîner tous les souverains d'Europe, à l'occasion de son mariage avec la sœur du duc de Parme. Effrayé de ne pouvoir payer une dette de jeu, il prenait le couteau à papier placé près de son lit et le braquait devant lui comme un revolver. Il envoyait des messagers, s'informer si l'homme de police qu'il avait rossé la nuit dernière n'était pas mort. Et il disait en riant à une personne dont il croyait tenir la main des mots obscènes. Ces anges exterminateurs qu'on appelle volonté, pensée, n'était plus là pour faire rentrer dans l'ombre les mauvais esprits de ses sens et les basses émanations de sa mémoire. Au bout de 3 jours, vers 5 heures, il se réveilla comme d'un mauvais rêve dont on n'est pas responsable, mais dont on se souvient vaguement. Il demanda si des amis de ses parents avaient été près de lui pendant ces heures où il n'avait donné l'image que de la partie infime, la plus ancienne et la plus morte de lui-même. Et il pria, s'il était repris par le délire, qu'on les fît immédiatement sortir et qu'on ne les laissât rentrer que quand il aurait repris connaissance. Il leva les yeux autour de lui dans la chambre et regarda en souriant son chat noir qui, monté sur un vase de Chine, jouait avec un chrysanthème et respirait la fleur avec un geste de mime. Il fit sortir tout le monde et s'entretint longuement avec le prêtre qui le veillait. Pourtant, il refusa de communier et demanda au médecin de dire que l'estomac n'était plus en état de supporter l'hostie. Au bout d'une heure, il fit dire à sa belle-sœur et à Jean Galéas de rentrer. Au bout d'une heure, il fit dire à sa belle-sœur et à Jean Galéas de rentrer. Il dit: Je suis résigné, je suis heureux de mourir et d'aller devant Dieu. L'air était si doux qu'on ouvrit les fenêtres qui regardaient la mer sans la voir. Et à cause du vent trop vif, on laissa fermer celle d'en face, devant qui s'étendaient les pâturages et les bois. Baldassare fit traîner son lit près des fenêtres ouvertes. Un bateau, mené à la mer par les marins qui, sur la jetée, tiraient la corde, partait. Un beau mousse d'une quinzaine d'années se penchait à l'avant, tout au bord. À chaque vague, on croyait qu'il allait tomber dans l'eau, mais il se tenait ferme sur ses jambes solides. Il tendait le filet pour ramener le poisson et tenait une pipe chaude entre ses lèvres salées par le vent. Et le même vent qui enflait la voile venait rafraîchir les joues de Baldassare et fit voler un papillon dans la chambre. Il détourna la tête pour ne plus voir cette image heureuse des plaisirs qu'il avait passionnément aimés et qu'il ne goûterait plus. Il regarda le port. Un trois-mâts appareillait. C'est le bateau qui part pour les Indes, dit Jean Galéas. Baldassare ne distinguait pas les gens debout sur le pont. Il levait des mouchoirs, mais il devinait la soif d'inconnu qui altérait leurs yeux. Ceux-là avaient encore beaucoup à vivre, à connaître, à sentir. On leva l'ancre, un cri s'éleva, et le bateau s'ébranla sur la mer sombre, vers l'Occident, où dans une brume dorée, La lumière mêlait les petits bateaux et les nuages et murmurait aux voyageurs des promesses irrésistibles et vagues. Baldassare fit fermer les fenêtres de ce côté de la rotonde et ouvrir celles qui donnaient sur les pâturages et les bois. Il regarda les champs, mais il entendait encore le cri d'adieu poussé sur le trois-mâts, et il voyait le mousse, la pipe entre les dents qui tendait ses filets. La main de Baldassare remuait fiévreusement. Tout à coup, il entendit un petit bruit argentin, imperceptible et profond, comme un battement de cœur. C'était le son des cloches d'un village extrêmement éloigné, qui, par la grâce de l'air si limpide ce soir-là et de la brise propice, avait traversé bien des lieues de plaines et de rivières avant d'arriver jusqu'à lui, pour être recueilli par son oreille fidèle. C'était une voix présente et bien ancienne. Maintenant, il entendait son cœur battre avec leur vol harmonieux, suspendu au moment où elles semblent aspirer le son, et s'exhalant après, longuement et faiblement avec elles. À toutes les époques de sa vie, dès qu'il entendait le son lointain des cloches, il se rappelait malgré lui leur douceur dans l'air du soir, quand petit enfant encore, il rentrait au château par les champs. À ce moment, le médecin fit approcher tout le monde, ayant dit: c'est la fin. Baldassare reposait, les yeux fermés, et son cœur écoutait les cloches que son oreille paralysée par la mort voisine n'entendait plus. Il revit sa mère quand elle l'embrassait en rentrant, puis quand elle le couchait le soir et réchauffait ses pieds dans ses mains, restant près de lui s'il ne pouvait pas s'endormir. Il se rappela son Robinson Crusoé et les soirées au jardin quand sa sœur chantait, les paroles de son précepteur qui prédisait qu'il serait un jour un grand musicien, et l'émotion de sa mère alors, qu'elle s'efforçait en vain de cacher. Maintenant, il n'était plus temps de réaliser l'attente passionnée de sa mère et de sa sœur, qu'il avait si cruellement trompée. Il revit le grand tilleul sous lequel il s'était fiancé, et le jour de la rupture de ses fiançailles, où sa mère seule avait su le consoler. Il crut embrasser sa vieille bonne et tenir son premier violon. Il revit tout cela dans un lointain lumineux, doux et triste, comme celui que les fenêtres du côté des champs regardaient sans le voir. Il revit tout cela, et pourtant 2 secondes ne s'étaient pas écoulées depuis que le docteur, écoutant son cœur, avait dit: c'est la fin. Il se releva en disant: c'est fini. Alexis, sa mère et Jean Galéas se mirent à genoux, avec le duc de Parme qui venait d'arriver. Les domestiques pleuraient devant la porte ouverte. Octobre 1894.